L'actualité des industries culturelles et du numérique, première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquet de L'Express, The West Fest de France Culture, Gilles Fontaine de Fontaine. Bref, ce soir donc nos chroniqueurs, la régulation des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon est en marche. Emmanuel, avec pour commencer une semaine noire pour Google.
Oui, très noir même, puisque une accumulation de nouvelles un peu partout sur la planète, de mauvaises nouvelles donc pour le moteur de recherche. Ça a commencé aux États-Unis avec 50 procureurs donc de 50 États différents, à l'exception de l'Alabama et de la Californie, là où Google détient son siège, à Mountain View, ont décidé d'ouvrir une enquête pour une éventuelle abus de position dominante dans le domaine de la publicité. Alors il faut se souvenir quand même qu'il y avait déjà eu une enquête en Europe, de ce point de vue-là, qui avait donné lieu à une sanction de la part de la commissaire à la concurrence, Madame Vestager, qui vient justement d'être reconduite au poste de commissaire à la concurrence pour 5 ans, avec un portefeuille élargi, notamment élargi à tout le numérique, puisqu'elle est aussi vice-présidente de tout ce qui est numérique et technologie de l'information.
Alors que les GAFA espéraient peut-être qu'elles disparaissent dans cette nouvelle gouvernance de l'Union européenne.
Exactement, ce qui était une possibilité, puisqu'elle n'était pas énormément soutenue par son gouvernement, donc le gouvernement danois, en tout cas pour avoir un portefeuille et un poste plus important que lors de la précédente mandature. Donc on voit aujourd'hui que, en fait, la principale ennemie des GAFA, Google en particulier, reprend du service en Europe, que des procureurs ouvrent une enquête aux États-Unis sur des pratiques commerciales. Et puis la France qui a décidé finalement qui a réussi à taxer Google à hauteur de quasiment 965 millions d'euros pour donc fraude fiscale aggravée. Donc c'est une enquête qui maintenant était quasiment terminée en 2015. Il y a eu des appels de la part de Google qui a réussi à faire condamner l'État français dans un premier temps. Et puis finalement, le moteur de recherche a dû céder. Donc on voit que 500 millions d'euros vont partir au parquet financier, au nouveau parquet financier, et puis 465 millions directement au fisc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les caisses de l'État et une mauvaise nouvelle pour Google, donc une très mauvaise nouvelle pour Google sur l'ensemble de cette semaine.
Alors Google n'est pas le seul visé, on a aussi des évolutions sensibles, par exemple du côté de Facebook, et on évoquera après aussi d'Amazon et Apple.
Oui, parce qu'effectivement, les procureurs, alors là il n'y en a que 8, plus 50, mais 8 qui ont décidé également d'ouvrir une enquête à l'encontre de Facebook, donc ça aussi c'est une mauvaise nouvelle pour le réseau social. Et puis concernant sa crypto-monnaie, donc la Libra, vous savez, c'est cette monnaie que Facebook tente de créer et d'imposer à ses 2,4 milliards d'utilisateurs sur la planète, notamment dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'accès à des systèmes de paiement ou des systèmes bancaires, notamment en Afrique ou dans certains pays d'Asie. Et ben là, pour la première fois, il y a un axe franco-allemand qui s'est mis en place avec les deux ministres de l'économie qui ont dit qu'ils étaient contre la création de cette monnaie, en disant que c'était une question de souveraineté, qu'il fallait protéger les citoyens. Et puis il y a un facteur aussi d'instabilité de l'euro, puisque le Libra reposera sur plusieurs monnaies, dans un panier de monnaies, notamment l'euro. Donc si beaucoup de personnes achètent le Libra, ça peut créer une instabilité sur l'euro. Donc il peut y avoir une incidence indirecte du succès éventuel de cette crypto-monnaie sur la zone euro et sur l'euro. Donc on voit bien aujourd'hui que Facebook se retrouve face à des gouvernements et face aussi donc à une enquête directement de procureurs aux États-Unis. Donc là aussi, une semaine qui n'était pas très bonne pour Facebook.
Sur Google, Facebook et la nomination de Margrethe Vestager, une réaction peut-être, Gilles Fontaine?
Oui, une très mauvaise nouvelle pour Google, pour Facebook et pour les deux autres des GAFA, notamment pour Google et Facebook. Google a été, il me semble, condamné plusieurs fois au cours des dernières années pour ses pratiques
par Madame Vestager.
Par Madame Vestager, plusieurs milliards d'euros d'amende que Google n'a toujours pas payé, parce que évidemment Google à chaque fois fait appel de ses décisions et ça traîne en longueur, ça peut durer encore des années. On est un petit peu dans la même séquence que Microsoft il y a une vingtaine d'années, qui était également poursuivie par l'antitrust américaine et par l'antitrust européenne. C'est intéressant d'ailleurs parce que Bill Gates, qui fait l'objet d'une série qui va bientôt sortir sur Netflix, évoque cette période et raconte qu'il avait vécu ça très très mal, enfin que les auditions devant les parlementaires américains étaient retransmises en direct à la télévision, que ses enfants regardaient chacun
leur papa accusé, condamné,
tous les mots, etc. Alors c'est un petit peu la même chose. Microsoft a été la cible de plusieurs attorneys généraux américains et du départ département de la justice. Les enquêtes aux États-Unis, en Europe, ont duré plus de 15 ans.
Mais ça montre que ça prend du temps, mais qu'il y a un moment où les États-Unis, FTC, FCC, Department of Justice, c'est très important, le ministère de la Justice, mais aussi tout simplement, parfois jusqu'à la Cour suprême, ce qui a été le cas dans la Paramount pour le cinéma, dans l'affaire Microsoft, etc. La justice américaine, elle continue, et indépendamment d'ailleurs du président Trump.
Et on n'arrive pas forcément à un démantèlement de ces géants comme le prône Elizabeth Warren, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, mais en tout cas, on arrive à un Microsoft qui accepte de revenir un petit peu dans des pratiques commerciales plus, puisqu'il faut savoir que l'aboutissement de tout ça à l'époque de Microsoft, c'était quand même que Microsoft arrête de fondre son système d'exploitation avec son navigateur, parce que c'était de ça dont on parlait.
Oui, c'est l'abus de position dominante.
C'est-à-dire que Microsoft serait devenu la porte d'accès unique au web, et ça, Microsoft a dû finalement y renoncer. Et puis, à force
et du coup, ça a donné naissance à qui ? À Google.
À Google, voilà.
Zoé Sfez, en lien avec ce que la France prépare, et on va évoquer dans un instant le rôle du ministère de la Culture, mais on a aussi là, concernant Amazon, mais aussi surtout Apple, des conséquences que ça peut avoir.
En fait, on a cette annonce de Franck Riester au début de cette année, donc le 3 septembre dernier. Franck Riester, qu'on a quand même, faut le dire, peu entendu depuis sa nomination à la rue de la Valois, qui a présenté son projet de loi sur l'audiovisuel public, qui va être donc présenté en novembre. Il espère le faire passer en janvier prochain. Et alors, il nous sort cette mesure très triomphaliste qu'il présente ainsi en disant « Il faut réaffirmer notre souveraineté culturelle, donner des moyens aux champions français de pouvoir rivaliser avec les champions européens, américains et chinois. » Et Franck Riester annonce donc qu'il va demander, il va obliger toutes les plateformes de vidéo à la demande ou par abonnement, comme Netflix, comme Amazon Prime Video, mais aussi, donc on l'a dit, Disney et Apple, de consacrer au moins 16% de leur chiffre d'affaires à la création française. C'est un plancher qui a été fixé par décret, et qui, donc le montant réel pour chacun de ces groupes sera défini plus tard. Mais l'idée, c'est d'obliger tous ces gens à signer des conventions avec ce qui sera le successeur du CSA, puisque Franck Riester a annoncé que le CSA et Adopi fusionneront, en tout cas c'est ce que prévoit le projet, et tous ces gens-là devront signer cette convention qui les engage donc à financer la création française à hauteur de 16% du chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France, et s'ils refusent tout simplement de signer cette convention, Franck Riester menace tout simplement de les interdire d'émission. Alors, il y a plusieurs choses sur cette annonce. Effectivement, c'est une annonce relativement importante. Alors, on sait aujourd'hui, on a beaucoup de mal déjà à savoir combien Netflix réalise de chiffre d'affaires en France. Donc déjà, ça suppose que les groupes nous donnent le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans chacun des pays. Tous ces groupes-là, Disney+, Apple, Netflix, qu'ensuite, ils s'engagent à faire de la création française. Ensuite, si jamais il refusait de signer cette convention qui les engage, est-ce que Franck Riester pourrait réellement suspendre la diffusion de ces plateformes OTT en France ? Alors, il y a des questions techniques qui se posent. Alors, on a quand même l'impression que c'est une façon pour Franck Riester d'apaiser le milieu de la création, les producteurs, les auteurs en France, et de leur faire avaler, on va dire, deux couleuvres de types différents. La première, vous le savez, c'est la nomination de Dominique Boutonnat à la tête du CNC. Ça s'est passé cet été. Les producteurs et quasiment tous les acteurs du cinéma français continue de craindre beaucoup cette nomination, puisque Dominique Boutonnat, qui est producteur, était l'auteur d'un rapport qui, notamment, on en avait parlé en début d'année, qui vise à amener plus d'investissements privés dans le cinéma et à, d'une certaine manière, réformer le rôle du CNC, qui aujourd'hui, de financeur, premier financeur du cinéma français, deviendrait plutôt un gestionnaire qui aiderait à mettre en relation les producteurs avec des financeurs privés, grosse crainte des acteurs du cinéma. Et puis, tous ces acteurs producteurs indépendants, qui sont effectivement les premiers visés par cette réforme, ils craignent aussi beaucoup de choses de cette fameuse réforme de l'audiovisuel public telle qu'elle se profile aujourd'hui, puisque Franck Riester l'a dit, il prévoit dans ce texte d'assouplir la législation sur la publicité avec une publicité segmentée et géolocalisée, mais d'une part, par exemple, aujourd'hui, les chaînes publiques pourraient diffuser plus de 3 coupures pub sur un film quand il passe à la télévision s'il fait un peu plus d'une heure trente. On sait aussi que les chaînes pourront diffuser des films de cinéma quand elles le veulent, donc il n'y aura plus les interdits sur le mercredi, sur le vendredi. Le but, c'est de pouvoir...
Le samedi. Là, encore,
ni le samedi. Donc là, la limite, c'est 244 par an, celle proposée par Riester, contre 192 aujourd'hui. Et puis par ailleurs, de toute façon, tous ces producteurs indépendants, aujourd'hui, ils ont très peur finalement que les chaînes, à l'aune de cette réforme, se désengagent. On attend de cette loi un équilibre et du respect envers les autres. autres. Ça, c'est ce qu'a dit la présidente de la SACD ce week-end. C'était au Festival de La Rochelle, où Franck Riester a encore essayé de calmer un petit peu les producteurs indépendants. Mais l'idée, eh bien, c'est que quand les chaînes vont bien, les producteurs ne vont pas forcément mieux. En gros, on se rappelle que Canal+ a refusé de donner des droits pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois d'ailleurs. Ça, c'était l'année dernière. M6 a demandé à limiter sa contribution à la création et les obligations qu'elle a. Donc, on a du côté de Franck Riester, avec cette annonce très très impressionnante, l'idée que bien, d'un coup, il y avoir une avalanche d'argent qui va arriver de la part de ces acteurs existants ou qui vont arriver sur le marché français, sans pour autant régler les craintes disons, non seulement des acteurs de ce milieu, mais en particulier des acteurs les plus fragiles, ceux du cinéma indépendant.
Voilà, Franck Riester qui a d'ailleurs gagné dans la bataille un nouveau nom, on l'appelle Riesterix. Hein.
Riesterix, c'était l'article de l'Opinion, Riesterix voilà. Contre Netflix.
Et puis dans un tout autre registre, nous avons appris hier la mort de Robert Lion, grande figure de la gauche française, le Parti Socialiste d'abord, les écologistes ensuite. Robert Lion fut le premier directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981, puis le patron de la Caisse des dépôts et consignations. Il a joué un rôle majeur, notamment dans les grands travaux de François Mitterrand, je pense à la construction en particulier, puis à la gestion de la Grande Arche de la Défense, et plus récemment comme président de Greenpeace en France. Cet énarque était un techno, mais aussi un militant, ce qui est devenu rare. Il est mort vendredi à l'âge de 85 ans. Vous pouvez retrouver notre séquence Actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power. À suivre dans un instant, émission spéciale sur une région administrative spéciale, Hong Kong, un pays, deux systèmes. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur Je suis africain, l'album posthume de Rachida, le chanteur d'origine algérienne décédé il y a un an. Ancien membre du groupe Quart de Séjour, à l'époque, dans les années 80, des marches contre le racisme et de la version arabisante de 12 France, Rachida s'était lancé dans une carrière solo à partir du début des années 90. Une dizaine d'albums demeurent qui témoignent de sa passion pour toutes les musiques et tous les genres, une fusion cross-culturelle au-delà des frontières. Mort d'une maladie rare, la maladie d'Arnold Chiari ou Chiari, en septembre, il y a un an, il a laissé un album posthume qui sort donc cette semaine et dont le titre principal est ce morceau « Je suis africain, je suis africain ». Vous noterez qu'il englobe parmi les Africains non seulement Aimé Césaire, Frantz Fanon, mais aussi Jacques Derrida, Malcolm X ou Jimi Hendrix. Rachida sur France Culture.
Je suis africain, de Paris à Bamako. Je suis africain, Fuji au Kilimanjaro.